Ma première question serait de savoir depuis quand vous habitez Orléans, enfin en tout cas depuis quand vous habitez ben, ici à la source.
Alors, à la source, depuis 1983, Orléans, alors c'est une histoire à épisode, enfin il y a deux épisodes. J'ai habité Orléans tout à fait par hasard durant une année, de 62 à 63. Et ensuite, je suis arrivé. Ensuite, j'ai quitté la région. Et ensuite, je suis arrivé à Orléans, et donc j'ai pas bougé, depuis septembre 1970. Donc ça va faire 40 ans.
Ah oui.
Comment ça faire?
Effectivement,
Voilà.
et donc, donc vous n'êtes pas né à Orléans?
Pas du tout. Non, non, je suis né en Algérie. Je suis né à Oran.
D'accord.
Voilà.
D'accord. Et donc vous êtes arrivé une première fois à
Ben en
Orléans?
fait, c'est l'exode des
Oui,
Pieds-Noirs
bien sûr.
en 62. Donc juste au moment de l'indépendance de l'Algérie, on a quitté l'Algérie et puis on a été rapatriés. Enfin bon, je sais pas si vous voulez que je vous raconte, je peux vous raconter. Hein,
Ah non,
c'est
mais
pas...
c'est vous.
On a
Mais.
quitté Oran, parce
Ouais.
que j'habitais Oran par avion. On a atterri à Marseille
Ouais.
et en fait c'était en plein dans... C'est l'époque de l'exode des
Ah
rapatriés d'Algérie.
ouais.
Et donc, il y en avait beaucoup. Il y
Ouais.
avait 1 million de personnes. Enfin, bon, tout le monde n'est pas arrivé sur un jour, mais ça s'est étalé sur quelques mois, quoi. Et donc, nous, on était vraiment dans le... Enfin, à un moment où il y en avait déjà beaucoup qui étaient arrivés. Alors, en fait, on est arrivé à Marseille-Marignane. On a dû passer une nuit ou deux, là, à Marseille. Et ensuite, bon, nous, on souhaitait rester dans le sud, dans le Midi. Mais en fait, le Midi était archi plein partout, et donc on nous a dit c'est pas possible. On nous a envoyés sur Paris par le train. À Paris, on a passé quelque temps à l'aéroport du Bourget. Et là, ensuite, on a dû rester presque 2 semaines, je crois. Et alors, ensuite, même la région parisienne, les côtés de Sarcelles, tout ça, c'était absolument plein. Et donc, la consigne à cette époque-là, donc on était vers la mi-juillet, vers le 20 juillet, quelque chose comme ça. La consigne, c'était maintenant on dispatche en province.
Ah.
Alors on a eu le choix entre 3 villes. Alors il y avait Amiens, Beauvais et Orléans. Et la plus au sud, c'était Orléans. On a pris Orléans. Voilà. Bon,
Ah,
voilà
mais je
comment
suis.
on est arrivé à
Ouais.
Orléans. Bah, toute ma
Toute
famille,
une
enfin mes
famille.
parents, mon père, ma mère, mes 2 frères et moi. Voilà.
Et à l'époque, vous aviez quel âge, vous?
J'avais 15 ans.
Ouais.
Ouais, 15 ans.
Et donc, vous étiez à Oran, vous étiez scolarisé
Ah oui,
là-bas.
j'étais en seconde, en lycée. Et bon, en fait, le dernier trimestre, en fait, je suis pas allé en classe parce qu'il y avait... C'était surtout à Oran, ça a été
C'était
très dur à
dur, ouais.
Oran. Il y avait la lutte entre l'OS et le FLN. Alors, en fait, les gens se faisaient tuer. Enfin, j'ai vu pas mal de morts, hein, malheureusement. Et les gens, alors dans les deux communautés, les gens, il y avait des gens, donc il y avait des musulmans qui venaient dans le quartier européen, qui avaient l'habitude, qui se connaissaient, etc., qui se faisaient tuer. Et inversement, j'ai un oncle qui a failli laisser sa vie parce que il allait souvent dans le village, on appelait le village nègre, c'est le quartier musulman, quoi. Et il a failli laisser sa peau aussi. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait tuer comme ça des deux côtés. Hein. Et donc en plus, il y avait des attentats, il y avait des bombes, des plastiques. Donc,
Oui.
le dernier trimestre, je ne l'ai pas fait. Et donc du coup, j'ai redoublé ma seconde. En venant ici, j'ai fait une deuxième fois la seconde. Enfin bon, comme j'avais déjà un an d'avance, enfin de l'école primaire, ça datait. Donc ça ne m'a pas gêné, quoi. J'ai fait une scolarité normale après.
Alors, vous avez continué vos études à Orléans? Non.
Non, alors
Après, oui.
justement, on a passé 1 an, mais enfin, c'était l'année 62-63, alors. Je sais pas, vous étiez peut-être pas né à cette époque.
Presque, non, il me manque quelques années avant ma naissance. Moi, je suis né en 67, donc.
Ah, d'accord. Et donc, en 62-63, justement, et je crois qu'ils en parlaient, je sais pas s'ils en ont parlé beaucoup, ça a été un record de froid cette année-là. Le Loiret a gelé, ce qui n'était pas arrivé, paraît-il, depuis 1870. Et en plus, alors l'hiver, il a été froid, mais en plus, il a été précoce. Il a commencé, je crois, au mois d'octobre. Et il a été particulièrement long, il a dû finir début mai. Alors là, on a tous été... enfin, on a eu du mal à supporter le froid. Celui qui a mieux supporté, c'était mon père. Il n'avait pas eu de chance. Enfin, il avait eu un accident tout bête. Il avait glissé dans la rue et il s'était cassé la rotule à Oran. Et donc, on lui avait mis un plat. Il a eu une rotule artificielle, il avait été opéré, etc. Et en fait, il se baladait avec sa canne, parce qu'en fait, il a tout perdu là-bas. Enfin, il avait un commerce, etc. Bon, enfin, il s'est reconverti parce qu'il y avait pas mal dans la population pied-noir, il y avait pas mal de petits commerçants. Mmh. Donc, en fait, en France, le gouvernement craignait que ça déséquilibre un petit peu enfin, qu'il y ait trop de commerçants, quoi. Mmh. Et donc, il offrait une prime pour ceux qui se convertissaient au salariat. Donc, c'est ce qu'il a fait. Donc, il a pu toucher cette petite prime et bon, il a trouvé un boulot. Il était gardien de nuit. Donc, en fait, il partait... il faisait la nuit, quoi. Donc, il partait... enfin, en plus, les trucs étaient gelés. Là, il passait... On habitait... vous connaissez un peu Orléans ?
Oui, oui, oui.
Place de la Bascule, ça vous dit quelque chose ? Voilà. On habitait rue de la Bascule.
D'accord.
C'était une maison à l'époque. Une petite maison et... Elle n'existe plus, maintenant c'est des immeubles. Mais là, en fait, on était au deuxième étage, il y avait une autre famille au rez-de-chaussée. C'est des gens qui venaient du Maroc. Et. Bon, enfin, ça a été assez dur, disons, parce que là, il y a des moments où on n'avait plus d'eau, c'est-à-dire que la tuyauterie gelait. Donc l'eau n'arrivait plus. On était obligé de descendre dans le jardin, il y avait un truc qui était un peu enterré, et on arrivait à prendre de l'eau comme ça, c'était assez...
Ah ouais, j'imagine...
Et donc en fait, quand j'ai un oncle qui était revenu, qui lui aussi avait été commerçant, mais lui il est resté, et il a cherché, il était plus jeune que mon père, hein. Il a cherché une affaire, enfin un commerce quoi. Et il était, lui, dans la confection, enfin, dans la confection de tenues de plage, des trucs comme ça, des tenues d'été, quoi. Et finalement, il est resté sur Paris un bon moment, et bon, il n'a pas trouvé. Et puis, il est allé sur Nice, et là, il a trouvé, après plusieurs mois, quand même, il a trouvé quelque chose, et lui avait déjà un logement, et en fait, avec cette affaire de confection, de tenue d'été aussi, de maillot de bain, etc., qui était au premier étage. Au quatrième étage, il y avait un appartement. Et donc, il n'a pas acheté, mais enfin, il y avait une histoire de pas de porte, je pense, et puis il payait un loyer pour la location. Et donc, il a proposé à mes parents, donc c'était le frère de ma mère, enfin, c'est toujours lui, il est toujours vivant, et il nous a... proposer cet appartement. Et donc ma mère, elle était pour y aller tout de suite, évidemment. Mon père, il a un petit peu hésité parce que en fait, c'était le tout début de la source. C'est-à-dire qu'ils commençaient à construire, ils ont construit Beauchamp pour les rapatriés d'Algérie, les HLM de Beauchamp.
Oui, 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 oui.
Voilà.
Oui, oui,
oui. Donc les tout premiers qui ont habité, c'est des pieds-noirs, c'est des rapatriés d'Algérie. Mmh. Et en fait, mon père avait déposé une demande. Et en fait, c'est arrivé là au mois de juillet 63, les HLM sortaient de terre et étaient livrés. Et donc, on lui avait attribué un logement. Mais en fait, bon, il y avait quand même le problème du climat. Et donc finalement, on a quitté Orléans. Et moi, c'est tout à fait par hasard que je suis revenu.
Ah oui ? Alors, ouais. C'est quoi ce hasard ?
C'est une petite annonce sur Le Monde. Voilà, comme ça, j'ai été recruté sur une petite annonce du Monde par mon directeur. Je suis rentré au CNRS.
D'accord.
Comme ingénieur.
D'accord.
Et en même temps, je préparais une thèse.
Ah.
Et voilà.
Dans quelle discipline ?
Alors, au début, j'ai travaillé dans le domaine de la biochimie physique. Mmh. Je faisais une thèse sur la perméabilité cellulaire chez Saccharomyces cerevisiae. C'est la levure de boulangerie.
D'accord.
Alors, j'allais, toutes les semaines, j'allais rebanier, je prenais mon... J'achetais, enfin, il y avait un endroit qui fournissait les boulangers et les pâtissiers, dont j'achetais ma levure. Et je faisais, bon, enfin, c'était des systèmes de marqueurs radioactifs, après on faisait des comptages, enfin, c'était intéressant. Hein.
Ah oui, j'aimais bien. Ouais.
Voilà, donc c'est comme ça que je suis revenu à Orléans, tout à fait par hasard, en 70.
D'accord. Et là, en 70, vous avez habité où dans...
Alors là, en fait, la première année, enfin, au tout début, j'ai pris une chambre à l'hôtel. Parce qu'en fait, en accord avec le directeur, parce qu'en fait, lui-même, il n'était pas d'Orléans. Mmh. Il venait de Bordeaux. Et il avait déménagé son laboratoire. En fait, c'était une toute petite équipe. Donc, il y avait lui-même qui était directeur. Et il y avait un technicien. Et une technicienne. Alors, en fait, le technicien, il avait... il n'était pas là quand je suis arrivé. Il faisait son service militaire. Mais c'est lui qui avait été recruté quand le directeur était arrivé. Et ils avaient... remonter le labo un peu tous les deux, quoi. Il avait ramené du matériel de Bordeaux, etc. Et puis après, quand je suis arrivé, moi, il partait, il était au service militaire. Et donc, pour le remplacer, il y avait une jeune fille qui avait été recrutée. Donc, en fait, il y avait cette jeune fille, le directeur et moi. Et après, quand le technicien est revenu du service militaire, on était quatre. Donc, c'est vraiment... une petite équipe. Hein. Ah ouais. Voilà.
Non, mais c'est vraiment intéressant. Et donc, l'arrivée ici...
Oui, donc je suis allé à l'hôtel pendant deux semaines. Oui. On avait convenu que je viendrais à la mi-septembre, donc ce que j'ai fait. Et disons que pendant deux semaines, on discuterait un peu plus à fond de ce qu'il y avait à faire, de... comment ils voyaient les choses et si c'était une période d'essai en quelque sorte. Si au bout de ces deux semaines, soit moi, soit lui, on trouvait que ça n'allait pas, on se disait au revoir et puis c'était terminé. Bon, au bout de ces deux semaines, moi ça m'a convenu et lui aussi. Donc je suis resté, donc je suis entré. Et là, il y a encore une période de six mois. Je ne sais pas si ça existe encore maintenant, on est stagiaire. Donc voilà, en avril 71, j'ai été officiellement recruté.
Ah oui.
Enfin, en principe, j'ai été recruté le 1er octobre 1970. Voilà.
D'accord.
Et donc après, j'ai habité une chambre au centre-ville, rue Dillier. Et après, j'ai pris c'était une chambre meublée, chez l'habitant en fait. Et ensuite, j'ai pris un appartement meublé aussi à Saint-Jean-le-Blanc, face à l'église. Et après, donc, j'ai failli habiter la Source à cette époque-là. J'ai failli habiter, ça existe encore, c'est la Silof, je ne sais pas si vous connaissez.
Non, ça je vois pas.
Non. Alors, c'est des appartements, vous voyez, où il y a le centre œcuménique.
Oui.
Et bien, juste là, il y a des immeubles qui ont été rénovés maintenant et qui étaient attribués en priorité au personnel du CNRS. Et donc, le CNRS, l'administration du CNRS, attribuait les appartements en fonction des demandes, en fonction des disponibilités.
Oui, parce que là, c'était vraiment le lancement de l'expansion de la Source.
Oui, c'est les années... tout début des années 70, quoi. Et donc, moi, quand j'ai fait ma demande, je ne sais plus quelle année c'était, l'administrateur est venu me voir et il m'a dit, vous avez demandé un deux pièces, vous y avez droit, il n'y a pas de problème, mais il y avait quelqu'un qui était marié, qui avait un enfant en bas âge, et bon, il m'a dit, ce serait bien si vous pouviez leur céder la place. Alors, finalement, j'ai cédé la place, donc du coup, je n'ai pas habité.
D'accord.
Et après, j'ai habité là, Saint-Jean-le-Blanc, et après, j'ai décidé d'acheter un appartement. J'ai acheté un appartement du côté du Faubourg Bourgogne, les Séquoias, ça s'appelle, je ne sais pas si vous connaissez ça.
Bon, je connais bien le Faubourg Bourgogne, mais...
C'est Saint-Loup, vous voyez la...
Saint-Loup. Saint-Loup, là, enfin le...
Voilà.
Oui.
Vous voyez où il y a les cloches Bollet?
Oui.
Et bien, c'est juste avant.
D'accord.
Il y a une grande résidence, là.
D'accord. Juste en bord
En face de Monsieur Bricolage, il y a un Monsieur
Voilà,
Bricolage juste en
oui,
face.
tout à fait, oui.
Voilà, ça s'appelle les séquoias parce qu'il y a de très
De
grands
grands
arbres,
séquoias.
des séquoias.
Et ça donne sur le canal d'Orléans et la Loire de l'autre
Exactement,
côté.
voilà. Ouais, il y a un petit chemin, on peut y aller à pied là. Ouais.
Oui.
Donc là, j'avais acheté un appartement au sixième étage.
Ah oui, là,
Voilà, un
une
trois
brique.
pièces. Donc j'étais célibataire quand j'ai acheté. Enfin, quand j'ai acheté, oui, c'est moi qui ai pris toutes les décisions seul. Et en fait, enfin, quasiment la même année, j'ai connu ma future femme. Et donc, en fait, quand j'ai déménagé, on était ensemble. Enfin, on ne vivait pas ensemble parce qu'elle habitait sur Paris. Donc, on se voyait soit à Paris, soit à Orléans. Et ensuite, eh ben elle est finalement venue vivre ici quand même au début de l'année 79. Elle a trouvé du travail ici sans trop de problèmes. Et puis on s'est mariés en 79.
D'accord. Elle a
Voilà.
trouvé quoi comme type de... Elle était dans quel
En fait, elle
domaine?
était infirmière.
D'accord.
Ouais. Donc en fait, à Paris, elle travaillait de nuit essentiellement et elle travaillait chez les enfants, enfin un hôpital pour enfants, un hôpital Brotonneau à Paris. Et donc ensuite, ici, elle a travaillé à l'Archette. À l'époque, l'Archette, c'était vers Olivet. Enfin,
Oui.
c'était. Je ne sais pas si vous voyez où
Oui,
c'était,
oui,
l'Archette. Hein, elle a déménagé depuis. Et après, elle a réussi à intégrer l'hôpital d'Orléans. Et voilà, quand on s'est mariés, donc elle travaillait à l'hôpital. Et après, elle-même, elle a. Bon, comme ça, l'hôpital, c'est souvent des horaires.
Oui.
Un peu compliqué avec une famille. Bon, après, on a notre fille qui est née en 82, et donc finalement, elle a décidé de faire des études de puériculture, qu'elle a fait, qu'elle a réussi. Et donc, bon, bah, à ce moment-là, elle a été recrutée par la mairie d'Orléans, et elle a. Bah, depuis, elle est toujours. Elle travaille encore, elle, parce que moi, je suis à la retraite maintenant.
Donc,
Voilà.
elle a travaillé encore dans les crèches ou dans...
Ah ben,
Non,
si, elle a
c'est...
travaillé dans la crèche. Elle a travaillé dans la crèche familiale ici à la source.
Oui.
Après, elle a travaillé à la crèche. Alors, il y a une mini-crèche qui est à côté de la crèche de la Bolière qui s'appelle la Farandole
Oui,
maintenant. Et donc, elle a travaillé là. Elle était directrice. Et puis, ensuite, elle a travaillé au Plat des Pins. Je ne sais pas si vous connaissez.
Mais c'est en
Connaissez?
centre-ville, ça.
Voilà, c'est à côté des cinémas, là, les nouveaux
Oui,
cinémas
c'est ça, oui. C'est la
Pathé.
crèche qui avait des horaires
Pour les
allongés pour les
commerçants,
commerçants.
voilà exactement. Donc là, elle a fait encore quelques années, 6 ou 7 ans. Et puis maintenant, elle travaille à la crèche familiale de la gare. C'est juste derrière la prison. Voilà. Donc comme elle est plus jeune que moi, ben, elle n'a pas fini là encore.
Elle n'a pas encore la joie d'être
Voilà.
à
Et
la
en fait, quand
retraite.
on a eu notre fille, donc là, on a essayé de trouver, parce que ma femme, elle est d'un petit village breton. Et elle a toujours connu les. Elle a toujours habité dans une maison, sauf quand elle habitait Paris. Bon, c'est pas pareil, évidemment. Donc elle souhaitait vraiment habiter. Donc comme moi je travaillais à la source, et elle travaillait à la source aussi, bon ben on s'est dit. Enfin non, à l'époque, quand on a acheté, elle travaillait pas encore. Elle était dans ses années d'études, en fait. Mais. Bon, elle pensait qu'elle. Enfin, effectivement, après, elle a travaillé sur la source pendant pas mal d'années, quoi. Donc, on a cherché, on a trouvé une maison. C'est pas celle-ci, c'est une maison qui était rue Théophile Gautier. C'est tout près de Loret-Sologne, en
Oui,
fait.
je vois, oui.
C'est à côté, il y a une toute petite copropriété qui s'appelle Loret, tout court. Et donc, c'est là qu'on a acheté une maison. Et donc, voilà, un fils qui est né après quelques années plus tard. Et puis ensuite, bon, bah, la maison commençait. On ne pouvait pas agrandir, malheureusement, la maison. En fait, là-bas, c'était un système, une très grande maison séparée en deux. Et donc, enfin, on avait une moitié de maison. Enfin, c'était des maisons mitoyennes, quoi.
Mitoyenne.
Et donc, il n'y avait pas moyen d'agrandir, quoi.
Oui.
Donc, bon, on a essayé de faire quelques travaux. On a essayé d'améliorer. Mais bon, on s'est dit, bon, il faudrait quand même déménager. Donc, ce qu'on a fait. On est là depuis 96, là, ça fait un peu plus de 13 ans.
D'accord.
Voilà.
Donc le choix du quartier, c'était surtout lié au travail, la proximité de...
Oui, parce que moi, je travaillais. Alors moi, en fait, oui, j'ai fait toute ma, enfin, l'essentiel de ma carrière, hein, à part... puisque je suis rentré fin 70, je suis sorti de mon école d'ingénieur. Je fais l'école de l'INSA à Lyon. Mmh. J'en suis sorti en juin 69. Donc après, j'ai voulu... Enfin, à l'époque, donc, il y avait le service militaire encore, ouais. Donc j'ai passé ce qu'on appelait les 3 jours à l'époque. C'était à Tarascon. Et en fait, je suis tombé, moi je fais partie de la génération du baby-boom. Mm-hmm. Donc en fait, il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Et bon, je ne sais pas si je suis tombé sur une bonne période. Enfin, à l'armée, ils ont exempté énormément de gens. Alors, en fait, j'avais travaillé beaucoup quand j'étais étudiant en été. J'avais travaillé dans les hôpitaux de Nice. J'ai fait plusieurs hôpitaux et j'ai fait à peu près tous les laboratoires. Biochimie, biologie, microbiologie, hématologie. Donc, et là, j'avais vu un médecin qui m'avait... il m'avait poussé, il m'avait dit « Oh, vous devriez... vous devriez faire médecine parce que vous avez une bonne formation scientifique et après médecine, ça sera parfait, vous serez un très très bon médecin. » Bon, finalement, j'ai pas fait, malheureusement, mais bah, sinon, il y avait encore
quelques années d'études.
Parce que là, en fait, à l'INSA, l'avantage qu'il y avait, c'est qu'il y avait... Parce que j'étais admis dans les classes préparatoires, mais l'INSA, en fait, c'est des prépas intégrés. Donc en fait, on entre à l'école juste après le bac. Et donc à l'époque, ça se faisait sur 4 ans. Et donc j'ai eu mon bac à 18 ans et à 22 ans, donc j'étais diplômé. D'accord. Et bon, comme mes parents étaient dans un milieu relativement modeste, j'ai travaillé quoi. J'ai cherché du travail.
Ceci dit, c'est un travail qui vous plaisait beaucoup quand même.
Oui, alors bon, il y a eu pas mal de péripéties. C'est que mon patron est mort, malheureusement. Il a eu un infarctus. Alors, il n'est pas mort immédiatement, mais il a eu quelques semaines, quelques mois peut-être de répit, quoi. Mais bon, il est décédé après, quoi. C'était en 72. Il a dû avoir une attaque juste avant l'été. Et il est mort en octobre. Et ensuite, donc, j'ai été mis dans un autre laboratoire. Enfin, la thèse que j'avais commencée, en fait, parce que j'ai passé la première année à mettre au point les appareillages, etc., qui étaient tout nouveaux. Et c'était en plus un nouveau modèle aussi. La société qu'il faisait, c'était... on essuyait un peu les plâtres. Donc, le temps de mettre tout ça un petit peu au point, en fait, c'est vite passé, quoi. Et bon, je commençais à peine à avoir des résultats, quoi. Donc, j'ai vu si quelqu'un pouvait éventuellement reprendre la direction de thèse, mais... Et en plus, au CNRS, c'était parce que j'ai été recruté comme ingénieur de recherche. Mmh. Et au CNRS, donc, il y a deux corps, quoi, comme un peu comme à la fac, je crois, de personnel, quoi. Il y a le personnel chercheur. Et le personnel, ce qu'on appelle, CNRS, les ITA, ingénieurs, techniciens, administratifs. Donc moi, j'étais un peu dans le haut de la pyramide des ITA, mais enfin, bon, j'étais quand même ingénieur. Et donc, ça se passait à Paris, tout ça. Ils voyaient ça d'un très mauvais œil que les ingénieurs faisaient des thèses, à l'époque. Donc, j'ai été reclassé dans un autre laboratoire où j'ai fait tout à fait autre chose. Mais enfin, bon, c'était... Enfin, j'avais essayé d'aller... Il y avait un laboratoire qui m'aurait mieux convenu, disons. C'était le Centre de Biophysique Moléculaire, le CBM. Mais en fait, mon collègue, le technicien qui était avec moi dans ce laboratoire, avait été lui-même placé là. Et donc, le directeur, le chef du personnel à Paris... trouvait qu'il ne pouvait pas mettre 2 personnes. Donc moi, j'étais dans un laboratoire tout à fait autre chose. J'ai fait ça s'appelait chimie des hautes températures, combustion et hautes températures. Donc je me suis reconverti, donc j'ai fait autre chose. Enfin, j'ai fait essentiellement des mesures, on peut dire que sur toute ma carrière, hein, j'ai fait des mesures, quoi, de l'analyse et des mesures. Alors, c'est très varié, hein, dans beaucoup, oui. beaucoup de domaines, quoi. Et donc là, j'ai fait pas mal de choses sur... je suis resté presque un quart de siècle, là, dans ce deuxième laboratoire. Un peu moins de 25 ans, à quelques mois près. Et après, j'ai fini ma carrière dans un laboratoire qui existe toujours, qui s'appelle l'IRAMAT, Institut de recherche sur les archéomatériaux. Vous connaissez?
Oui.
Voilà, c'est le centre Ernest Babylon. Et donc, voilà, En fait, j'ai fait une mutation interne, si on veut, quoi. C'est-à-dire que j'ai... Enfin, le laboratoire avait affiché un... Enfin, avait besoin d'un poste d'ingénieur. Et bon, bah, j'ai vu le profil et j'ai postulé. Donc, j'ai rencontré le directeur que je connaissais parce que... Enfin, on n'avait pas joué ensemble, mais on jouait tous les deux au tennis pendant une période. C'était la grande époque du tennis. Et bon, lui était très, très doué. Il avait un bon classement. Mais enfin, bon, on se connaissait de vue, quoi. Et bon, ben, voilà, c'est comme ça que j'ai été recruté dans ce laboratoire et j'ai terminé ma carrière là dans ce laboratoire.
D'accord.
Pendant les 10 dernières années de ma carrière, 10 ans et demi.
Et donc, une journée de travail comme ça dans ce laboratoire, c'était très varié ou...
Dans lequel?
Dans le dernier, là, par exemple, pour essayer de voir à quoi ressemble
une
journée.
Alors en fait, moi dans ce laboratoire, j'ai commencé avec, enfin j'ai travaillé avec un ingénieur aussi, mais qui en fait, bon, dans les petites équipes, et puis bon, parce que le laboratoire où j'étais, où j'ai passé presque 25 ans, c'était un gros labo. Alors que mon premier laboratoire, c'était tout petit, et le dernier, bon, était un peu plus gros, mais... était pas... En fait, l'IRAMAT, c'est un regroupement de trois laboratoires. Il y en a un à Belfort, un à Orléans et un à Bordeaux. Et en fait, celui d'Orléans, donc, c'est... au début, il était totalement autonome, et puis ça a été fondu dans cet institut, quoi. Et donc, c'est Jean-Noël... je ne sais pas si vous connaissez le nom. Qui a fondé ce laboratoire. Lui, il est physicien... d'origine, il est physicien, enfin même il travaille dans la physique atomique, physique nucléaire, et il était déjà chercheur, hein, et il travaillait au cyclotron. Et en fait, il a eu des idées de manip, parce qu'il est aussi, il a toujours été passionné de numismatique, et il a eu des idées d'expérience justement sur des pièces de monnaie. Et en fait, ça a marché. Bon, il a entrevu des possibilités d'exploitation de cette méthode. Et donc, il a créé comme ça son équipe. Au début, il était tout seul. Et finalement, il a réussi à recruter des gens. Et notamment, il avait recruté un chercheur qui s'est spécialisé dans l'étude des couleurs. Ouais. Alors, c'est quelqu'un qui vit toujours, mais bon, qui est à la retraite maintenant depuis pas mal de temps. Qui s'appelle Bernard. Ça vous dit quelque chose? Non. Bon. Et donc, en fait, on a travaillé ensemble. Donc, moi, je suis arrivé en 97. On a travaillé pendant plus de 3 ans ensemble. Et bon, donc, en fait, mon objectif là-dedans, quand je suis arrivé, mon rôle, c'était... de mettre au point une méthode qui allait permettre de caractériser et d'identifier des couleurs. Et en fait, lui-même avait mis au point une méthode optique qui permettait de... avec des systèmes de spectre, qui permettait d'identifier certains pigments. Parce qu'on met... Enfin, il avait fait un... on peut appeler ça une chromothèque. Et en fait, il avait donc beaucoup de pigments, des pigments très purs, qu'il avait collectés tout au long de sa carrière. Et puis, quand il étudiait une peinture ou un pigment donné, qui était par exemple sur un objet, il faisait son spectre et il comparait ce spectre à un ensemble, à une bibliothèque de spectres qu'il avait accumulé. Et donc, comme ça, il pouvait penser que ça pouvait être tel et tel pigment. Mais dans le cas où il s'agissait de pigments à base métallique, sa méthode ne marchait pas parce que les spectres ne correspondaient pas à ces longueurs d'onde-là. Et donc, pour ça, j'ai mis au point une... Enfin, je n'ai pas mis au point la méthode. La méthode, elle existe. Ça s'appelle la spectrométrie de fluorescence X. C'est une méthode qui est assez ancienne, hein, qui date de, enfin, de, du début du XXe siècle, enfin, premier quart du XXe siècle, mais qui n'avait jamais été utilisée dans ce cas-là. Et donc, c'est moi qui l'ai mise au point pour essayer de détecter, justement, des métaux dans des pigments. Et donc, voilà, bon, c'est, voilà en gros ce que j'ai eu à faire. Et donc, ben, on l'a fait. En fait, on a... Alors, bon, ce qui était intéressant, enfin, c'est, on faisait des campagnes de mesures. Donc, il y avait des trucs que je faisais au laboratoire, je préparais. Et périodiquement, enfin, bon, il n'y en a pas eu non plus 50, mais on en a fait quand même plusieurs, des campagnes de mesures dans les grands musées parisiens. J'ai la voix qui commence à affaiblir un peu.
Bah non, pardon, mais reposez-la un peu. N'hésitez pas, c'est vrai que c'est un
ben
peu...
En fait, on a travaillé au musée du Louvre, on a travaillé au musée Jacquemart-André, je ne sais pas si vous connaissez à Paris. Ça, il faut visiter ça. Ah, hein. Oui. C'est, ouais. C'est un très très beau musée. Et il a, ils ont énormément de choses. En fait, c'est là qu'on a, que j'ai fait les toutes premières mesures sur des manuscrits. Et donc, on mesurait... des manuscrits enluminés, donc à la fois les enluminures et l'encre aussi des manuscrits. Et alors là, c'était un manuscrit, ça s'appelle « Les très riches heures du duc de Berry ». Alors c'est un manuscrit qui est conservé dans un coffre-fort au musée Jacquemart-André, parce qu'il a un prix inestimable. Et donc nous, on a eu droit, enfin il a fait... Je crois qu'il lui a fallu 4 ou 5 ans avec des tas de recommandations pour arriver à pouvoir déjà observer le manuscrit et pouvoir faire des mesures dessus. Et donc voilà, on a, et donc là les mesures ont marché, et même ça a donné lieu à une publication. Donc ça a été ma première publication dans ce laboratoire-là. Et ensuite on a fait... ben, on a fait d'autres musées. Bon, ensuite, entre-temps, le laboratoire qui était dans un tout petit... qui était hébergé dans un local vraiment très, très, très étroit, a réussi à obtenir des crédits pour faire un nouveau laboratoire. Donc là, maintenant, il existe depuis fin 2000, début 2001. Et en fait, ce collègue en question, d'abord, il a été touché par la limite d'âge. Mais en fait, bon, lui, même encore maintenant, je crois qu'il continue à... Il a eu un très, très grave accident cardiaque. Il a bien failli passer. Et donc, finalement, on l'a... Enfin, il a été opéré. Je crois qu'on lui a installé un pacemaker, etc. Et donc... bon, en plus, il avait un caractère de cochon. Mais ça, il y en a beaucoup hein, dans la recherche. Et donc, il a réussi à se fâcher avec le directeur, qui pourtant, Jean-Noël... Bon, c'est vrai que il est spécial. Enfin, il avait un caractère particulier aussi, mais bon, c'était quelqu'un de très, très chaleureux, très amical. Hein, c'était... Enfin, bon, je ne sais pas comment il a fait, mais il s'est fâché aussi. Il s'est fâché avec tout le monde, et donc il a claqué la porte. Enfin, de toute façon, il venait très... Enfin, il venait beaucoup moins. Hein. Mais il a pris sa retraite, mais il... Il n'a rien dit à personne, et puis après, on ne l'a plus vu. Donc voilà, il y a quelqu'un d'autre, en fait, qui a repris le flambeau. Donc c'est quelqu'un qui venait de l'hôpital. C'est quelqu'un qui était ingénieur à l'hôpital, dans les services de médecine nucléaire. Bon, alors ça a été compliqué. Elle est venue, elle a été détachée. Après, elle est retournée à l'hôpital. Bon, puis finalement, elle a réussi à intégrer le CNRS. Et donc, en fait, ça s'est fait... ben, elle a travaillé, en fait, avec ce collègue aussi. Et avec moi, bon... enfin, un petit peu, quoi. Puis après, bon, ben, en fait, quand, quand ce collègue est parti. C'est elle qui a hérité de la partie optique, si vous voulez. Et donc, moi, j'ai continué sur la fluorescence X. Mais en fait, bon, c'est vrai que... Enfin, bon, y a toujours des problèmes de personne, disons, qu'on ne s'entendait pas très bien avec cette fille. Et bon, bah voilà, donc finalement... On est quand même allé, tous ensemble avec, donc pas avec mon ancien collègue là, mais avec Jean-Noël, le directeur du labo. Donc cette fille et moi, on est allé et puis on avait reçu une stagiaire avec mon collègue là, qui était venu ici pour faire des mesures. Et en fait, c'est elle qui nous a reçus au Maroc. Et bon, elle commençait une thèse. Enfin, elle souhaitait commencer une thèse. Et donc, on a fait des mesures à Rabat sur des manuscrits arabes.
Ah oui. Ouais.
Et avec mon collègue précédent, la Bernard, on avait commencé, ça on avait fait au Louvre, on avait fait pas mal de mesures déjà sur des manuscrits arabes. Et donc, bon, bah, tout ça... donc ça, c'était fin 2001. Et ensuite, bon, ben, on m'a demandé à la fac de faire des cours sur la technique. Donc, ce que j'ai fait, j'ai donné des cours. À l'époque, c'était le DEA. Puis après, ça a été le master, la deuxième année de master. Et voilà, ça s'est terminé. J'ai donné des cours jusque, pas la toute dernière année, parce qu'en fait, je suis parti au mois de mars en retraite. Donc, j'ai donné jusqu'en 2007, j'ai donné des cours. Pendant 5 ans.
Oui, donc voilà. Tout votre métier, c'est quand même un métier passion. Vous l'aimiez beaucoup.
Oui, c'est vrai. Oui, c'était intéressant. Oui.
Vos enfants, ils ont fait des études.
Alors, mes enfants, oui. J'ai une fille qui a. Alors, elle est aussi très passionnée, mais elle, c'est pas du tout dans le domaine scientifique. Elle est journaliste maintenant.
D'accord.
Ouais. Et mon fils, il est étudiant encore. Il fait Sciences Po à Lille. Ah. Il termine cette année.
Et ils ont fait leurs études à Orléans avant, là, jusqu'au lycée.
Oui. Ils ont tout fait. Même ma fille, elle a tout fait, les études secondaires à la source. en fait, ici, quand on va vers le centre commercial de la Bolière, là, vous avez un groupe scolaire, Lavoisier. Donc, il y a la maternelle et il y a le primaire. Donc là-bas, mes deux enfants sont allés là. Et après, il y avait un collège, collège Alain Fournier à la source. Donc à l'époque, il était en plein Beauchamp.
Oui.
Donc ma fille est allée là. Et après, elle est allée à Voltaire. Alors mon fils, il est allé à Beauchamp, il est allé à Alain Fournier. Et c'était la toute dernière année où le collège était à Beauchamp. Et ça, c'était très dur la dernière année, parce qu'il y avait les élèves étaient durs à tenir. Il y avait plein. Enfin, c'était très, très agité. Et donc, ils ont décidé de. Ils ont transféré le collège. Maintenant, il est en face de l'église, ici, sur l'avenue de la Bolière. Et lui, après, par contre, il n'a pas fait Voltaire. Il est allé. Parce qu'une de ses profs lui a dit qu'il avait. Ce qui est vrai, il est relativement doué pour les langues. Et donc, il a fait une sixième européenne à Jean Zay, au lycée Jean Zay. Parce qu'il y en a maintenant à Voltaire, mais à l'époque, ça n'existait pas. Mm-hmm. Voilà, donc il a fait ça à la fin de ses études secondaires à Jean Zay. Et puis ensuite, il a passé le concours, il a passé plusieurs concours de Sciences Po. Et il a réussi un concours, il a réussi Lille. Donc voilà, là il termine.
Et pour justement pour la scolarité là, ou pour le quartier même, être à la source, c'est quelque chose qui vous plaisait bien, enfin, que vous sentez bien, ou vous trouvez qu'il y a suffisamment de choses pour les enfants, par exemple ou...
Ben, en fait, pour les enfants, moi, mes enfants, ils aimaient bien la musique et nous, on aimait bien qu'ils fassent de la musique aussi. Et à l'époque, alors, il y avait des antennes du conservatoire à la source. Ah. Et alors, le conservatoire, enfin, le directeur, à l'époque, s'était engagé à ce que il y a toujours cette antenne qui reste à la source. Et puis, bon, évidemment, quelques années après, ça a été supprimé. Et donc, bon, ben, on a fait beaucoup de navettes, quoi, pour emmener les enfants. Mais on se regroupait entre parents, quoi. Non, mais c'est vrai qu'on appréciait. Enfin, moi, ma femme appréciait beaucoup le fait d'avoir une maison, un jardin, tout ça, parce qu'elle avait toujours connu. Moi, c'était ma première... Quand on habitait quand on a commencé la rue Théophile Gautier, c'était ma première maison. Moi, je n'avais jamais habité en maison. Parce que j'avais toujours habité dans des appartements. Hein. Mais j'avais beaucoup déménagé. Hein, Là, je dois en être peut-être à pas loin des 20 déménagements, quand même. Ben oui, parce que c'est le hasard de la vie. Hein.
Bien sûr. Le tramway, justement, ça a changé des choses pour le quartier en termes de transport Vous avez vu une différence avec l'arrivée du tramway sur la source?
Oui, enfin, en fait, ma femme utilise pas mal le tramway, mon fils a pas mal utilisé, ma fille moins parce qu'elle est restée ici sur Voltaire. Si elle l'a utilisé un petit peu, oui, tout à fait, oui. Parce qu'elle, elle a fait, après Voltaire, elle a passé je crois qu'elle n'a pas voulu passer tout de suite des concours, et elle est allée à Potier, au lycée Potier, elle a fait Hippocagne et Cagne, et là, elle prenait le tramway, oui. Et après, donc, elle a fait des études à Paris, elle a fait une licence et une maîtrise de lettres, et après, elle a fait un master de journalisme en Belgique, à Louvain-la-Neuve.
Ah oui.
Ouais. Ben, moi, en fait, c'est vrai que je n'utilise pas énormément, mais bon, ça m'arrive de l'utiliser. Hein. Je vais au Aulnay, je laisse la voiture là-bas, et bon, ben, je vais en ville, j'en reviens. Ce qu'il y a, en fait, c'est que si on ne va pas au Aulnay, en fait, parce qu'on peut aller à pied et le prendre à la Molière, mais en fait, il fait pas mal de tours et détours, quoi. Ça prend pas mal de temps.
Ça prend le temps, oui.
Donc, en fait, le fait d'aller au Aulnay ou encore mieux au Zénith, bon, on gagne du temps, parce que c'est vrai qu'il fait un détour par Olivet, tout ça, c'est...
Vous utilisez les commerçants de la source, plutôt, ou vous allez ailleurs, par exemple, pour les courses, pour les achats, c'est plutôt la source à côté
Les achats, ça dépend quoi. C'est-à-dire que maintenant, sur la source, il y a pas mal de trucs discount, là, les trucs à prix cassé, là, à bas coût. Bon, moi, je trouve que c'est pas terrible, donc j'y vais pas. Il y avait une supérette, là, mais il y en a une autre qui va ouvrir, là, maintenant. Ça va s'appeler U-Express,
j'ai vu ça,
en septembre. On allait un petit peu, oui, j'allais un petit peu chez Champion. Moi, je vais régulièrement, là, au centre de la Bolière, j'achète mon pain, là, généralement. J'achetais le journal quand il y avait les journaux, mais il n'y est plus maintenant. Il y a mon boucher, qui est très bien, dont on est très, très satisfait. En fait, depuis l'histoire de la vache folle, ou à peu près à cette époque-là, on n'achète plus du tout en supermarché la viande. Alors le poisson, ça arrive qu'on l'achète encore à Auchan.
Oui.
Bon, on va soit à Auchan, soit à Leclerc, Olivier, là. Beaucoup plus rarement ailleurs, à Carrefour, c'est rare qu'on aille. À Auchan, Saint-Jean-de-la-Ruelle, c'est rare. Voilà, Carrefour, Place d'Arc aussi,
c'est rare. Oui.
C'est rare. Ouais. Non, dans l'ensemble, c'est... Ça peut être aussi des fois le centre-ville, parce que quand on habitait Orléans, enfin bon, c'était Faubourg-Bourgogne, c'était assez loin, mais des fois on faisait les courses à Châtelet, quoi. Donc ça peut arriver qu'on fasse des fois des courses, bon, on sait qu'il y a un boucher qui est très bien là-bas, je sais pas si vous connaissez.
Oui.
Et puis il y a le Petit Duc, c'est un moulanger, bon. Voilà, donc on sait que c'est bien, donc des fois on y va, on achète des choses là-bas. Mais sinon, oui, moi je suis assez fidèle aux...
Ici.
Oui, aux gens ici. Il y a un marchand de journaux là, vers l'Intermarché, là où à une époque j'achetais régulièrement mes journaux. Bon, j'y vais un petit peu moins maintenant.
Donc est-ce qu'on peut maintenant parler un petit peu de vos loisirs, en fait?
Oui, bien sûr.
Quel type de loisirs vous avez? Vous n'avez pas du tennis, je crois, tout à l'heure?
Oui, alors j'ai fait du tennis, mais bon, ça, c'est de l'histoire ancienne maintenant. Parce qu'il se trouve que, bon, déjà avec l'âge, ça devenait plus problématique. Enfin, j'ai eu des problèmes. Je faisais des luxations récidivantes, mais bon, ça, j'ai été opéré des deux épaules, donc ça, j'étais à peu près bien. Et puis, bon, j'avais des entorses aussi de temps en temps. Et puis, en fait, j'ai continué le tennis assez régulièrement. J'ai joué quand même pendant, moi, je dirais une bonne vingtaine d'années.
Ah oui, donc
Hein.
et régulièrement, vous étiez classé ou...
Ouais. Ouais, j'avais un petit classement. Alors, mon titre de gloire, c'est j'ai été 31.
Ah oui. Et
Enfin,
parmi...
j'ai monté progressivement et puis après, je suis redescendu.
Et vous jouiez sur
Alors, on
les terrains
jouait.
CNRS, là, je crois qu'il y a
Alors, il y a.
CNRS, ou plutôt quand vous étiez
Ben,
au
au CNRS,
Sequoia,
c'est moi
qui est monté à la
qui ai
section.
contribué à obtenir le terrain au
D'accord.
CNRS. Et puis, oui, j'ai contribué à monter la section tennis au CNRS. On a fait beaucoup de. Ben, on faisait beaucoup de compétitions, en fait. C'est-à-dire le labo où j'étais, là où j'ai passé 25 ans, c'était le boom du tennis. Et quasiment tout le labo jouait au tennis. Donc on n'avait pas de problème pour trouver un partenaire. On demandait à quelqu'un, s'il ne voulait pas, on demandait à un autre. Et on finissait toujours par trouver quelqu'un. Donc tout le monde était à l'USO en face. Et puis on jouait à l'USO. Enfin,
Ouais.
je jouais tous les jours.
Il y avait, il y avait des terrains à l'époque aussi, près du Faubourg-Bourgogne, là, des terrains de Wessonne, les
Oui, ah
voyez,
oui, vous
c'était...
avez connu ça, oui, le Clos
Oui, le
Fleury.
Clos Fleury,
Oui, j'y ai
oui.
joué là
Ah
aussi. Ouais. Parce qu'en fait, ça faisait partie de l'USO. Donc,
oui.
ben, donc j'ai initié un peu ma femme et donc on allait jouer ouais, sur ces terrains-là
Oui.
le week-end. Ouais, c'était des terrains en terre battue
Oui,
qui étaient très bien, qui
j'ai appris à
étaient
jouer là-bas. Oui,
très
on dit
bien
toujours qu'il y avait
entretenus.
un des meilleurs terrains de la
Ouais.
région. Oui.
Je sais pas ce que c'est devenu ça d'ailleurs.
Moi non plus, j'avoue que
Je sais pas si ça
j'y ai
existe
pensé tout à l'heure
encore.
quand vous m'avez parlé de tennis et puis du lieu, parce
Ouais.
que...
Ouais, donc là, on a beaucoup joué. Ben, moi, on jouait en salle aussi pendant l'hiver, parce que, bon, des fois, quand il pleuvait, donc on réservait des salles, on payait, évidemment. Hein. Et puis, on jouait en tennis corporatif, donc il y avait des compétitions. On faisait les compétitions départementales, il y en a qui faisaient les compétitions régionales, même nationales. Jean-Noël, il allait même au niveau national. Hein. Et donc oui, ça c'est vrai que ça m'a beaucoup occupé le tennis. Je jouais énormément oui, à une époque. Et puis après, bon bah, en 2001, j'ai eu un accident à mon nouveau labo. C'est justement l'époque où on a déménagé le laboratoire. Et bon bah, faire des économies de bout de chandelle, on n'a pas voulu tout donner aux déménageurs. Et en déménageant une armoire qui était particulièrement lourde. Ben, je suis tombé, je me suis abîmé un peu le genou. Donc, j'ai pas été arrêté tellement, mais ça m'a tenu pendant un sacré bout de temps. Ça a mis, je sais pas, plus d'un an, 1 an ou 1 an et demi à vraiment se guérir. Je suis même pas sûr que ce soit complètement. Bon, enfin, finalement, parce que j'étais allé voir le chirurgien qui m'avait opéré des épaules, lui, il voulait tout de suite m'ouvrir et puis. Mais bon, finalement, j'ai passé je sais pas combien d'IRM, et puis bon, finalement, ça a fini par se tasser, quoi. Ça, c'était en 2001, et ensuite en 2005, alors en 2005, j'ai eu un accident plus grave, mais enfin tout bête. C'est en revenant à vélo, pourtant je l'ai fait je sais pas combien de fois, mais en revenant de mon boulot à vélo, en rentrant chez moi, j'ai fait une chute bête sur un. Vous savez, les bateaux des trottoirs. Alors là, c'était un bateau qui descendait pas bien sur la chaussée. Donc il y avait
Un petit
un petit
rebord.
rebord. Et en plus, il y avait des feuilles. Il avait plu. Bon, alors j'ai pas dû le prendre pile en face. J'ai peut-être pris légèrement de biais. Et je me suis étalé. Et en fait, j'ai pas vu. Enfin, je me suis pas rendu compte tout de suite. Je pensais que j'allais me relever, tout allait bien. Et j'arrivais pas à me relever. Et en plus, c'était au mois de novembre, donc il commençait à faire nuit, c'était 6 h moins le quart. Et heureusement, c'était, je sais pas si vous voyez où il y a les trucs EDF, là où il y a des espèces de bassins avec des grosses boules, là, vous voyez, non? En face du BRGM.
Oui,
Et là, il y a des petites venelles, et il y a un collège là aussi, là,
c'est...
Montesquieu.
Oui.
Et en fait, je voyais des gens, enfin, j'ai eu de la chance, parce que sinon, j'aurais pu. parce qu'à l'époque, je n'avais pas de portable ni
Bah
rien.
oui, il aurait pu rester longtemps
Je
dans le feu,
voyais
on croit.
quelqu'un, enfin, je voyais des gens, au fond, qui sortaient du collège. Et donc, j'ai fait signe. Et en fait, il se trouve que c'est quelqu'un que je connaissais, enfin, on se connaissait de vue, parce que, encore par le tennis, on avait beaucoup joué au tennis ensemble. Et il est venu et il m'a dit, bah, je croyais que c'était une blague. J'ai dit, bah, non. Alors, il m'a dit, qu'est-ce que vous avez? Bah, j'ai dit, bah, moi, là, je suis tombé, j'arrive pas à m'enlever. Alors, il m'a aidé, et puis, bon, en m'aidant, je suis arrivé à me mettre debout. Et bon, bah, je voyais que j'avais quand même du mal à marcher. Il m'a dit, bon, bah, venez, je vais. Alors, je suis bien tombé parce que lui, il avait un espace. Il m'a mis le vélo dedans. Et puis, il m'a ramené chez moi. Alors, je lui ai dit de mettre le vélo dans le garage. Et puis, quand même, je me suis dit, lui, il m'a dit aussi, vous savez, il vaudrait mieux quand même aller voir à l'hôpital s'il n'y a rien de cassé, quoi. Et en fait, on a bien fait parce que j'avais un os cassé. Donc après, j'ai passé un scanner. Enfin bon, c'est un os de la hanche. C'est l'os sur lequel on se tient. Je savais même pas que je connaissais pas le nom. C'est le cotyle. Quand on est debout, on se tient dessus. Donc c'est un os qui est particulièrement costaud. Et bon, normalement, il casse pas. Mais bon, faut quand même, le choc est un peu violent. Parce que moi, j'étais tombé sur le côté. Donc le choc devait être violent. Et il avait cassé. Bon, ce n'était pas énorme. Donc du coup, on m'a opéré. Enfin, on m'a mis des plaques, des vis. Et donc voilà, alors là le tennis depuis c'est fini complètement. Déjà avant c'était plus ou moins compromis avec l'histoire du genou. Donc voilà, mais là j'ai à peu près récupéré, hein. J'ai fait de la kiné, tout ça, donc ça va.
Et alors donc, à part le sport, quel autre type de loisir
Ah ben,
vous
le
avez avec
sport,
vous?
ouais, ben, le sport, ben, à l'époque je faisais du vélo, maintenant bon ça m'a calmé un peu. J'en refais un petit peu, mais bon, beaucoup moins. La marche. Ça, je peux faire de la marche. Bon, la course, non, je peux plus. Je faisais du jogging à l'époque, c'est terminé. Je continue à faire du yoga. Ça, j'en fais depuis très longtemps, du yoga. Depuis, pas 40 ans, mais au moins 35, 36 ans. Et voilà, au niveau sport, je crois que c'est à peu près
Ah
tout.
oui. Et vous trouvez quelle
Natation, je fais beaucoup de.
natation?
Enfin, beaucoup. J'essaye d'aller au moins 2 fois par semaine quand je peux, à la piscine. Voilà. Bah, sinon, les loisirs, moi j'aime beaucoup le théâtre, j'aime beaucoup le cinéma, la lecture.
Il y a cinéma, oui, il n'y en a pas sur la source. Cinéma, c'est centre-ville,
Ouais, j'avais
j'imagine.
beaucoup au Carme,
Si,
cinéma des Carmes.
il y avait la salle Gérard Philippe, un temps,
Oui, mais
c'est fini depuis longtemps.
oui, ponctuellement, ils peuvent programmer des films, mais c'est rare, c'est exceptionnel.
Là, vous m'avez dit, sinon, cinéma des Carmes.
Voilà, le cinéma des Carmes. Bah, je ne sais pas si vous aviez connu les cinémas, mais vous deviez être tout petit. Le Martroi, rue Lillié. Donc on allait là, enfin, avec ma femme, quand on s'est connus. Après, on allait au Select. Et puis après, il y a eu les Carmes. Enfin, je suis allé dans tous les cinémas, mais bon, maintenant, c'est plutôt les Carmes, parce que bon, les autres,
Vous aimez
je trouve que
plutôt le
c'est moins bien.
cinéma
RSC,
à
oui,
réessayer,
plutôt RSC, oui.
oui. Et
Oui, je suis assez cinéphile, oui.
c'est vrai.
Oui.
Et vous trouvez justement qu'il y a assez de films à Orléans, que la programmation est bonne, est suffisante ou pas pour un cinéphile?
Pour un cinéphile, ben, en fait, le problème qu'on a, enfin, avec ma femme, c'est que le temps qu'on. Parce qu'on fonctionne beaucoup par le bouche à oreille. Et bon, ben, c'est vrai que, bon, enfin, maintenant, moi, j'aurais plus le temps, mais bon, c'est vrai que. Bon, j'ai un peu des scrupules à aller tout seul, quoi. J'essaye qu'on aille ensemble. Le temps qu'on entende parler par des amis ou par des émissions, j'écoute Boujou, enfin, j'écoute le Masque et la Plume depuis 50 ans, je crois. Non, peut-être pas, mais moins 40 ans, 45 ans. Et donc j'écoute beaucoup ça, j'écoute pas mal d'émissions qui parlent de cinéma. Et. Le temps qu'on sache qu'il y a un film qui est vraiment à voir, il est passé, enfin, il passe à Orléans, mais en fait, le temps qu'on ait un créneau pour aller le voir, ça y est, passe plus.
Et vous, il y avait un festival de cinéma un temps
Ah
à
oui, alors ça,
Orléans.
j'étais allé, oui, j'étais un pilier du festival, ouais. On est allé, ça, on a connu les festivals les premières années. Ouais. C'était très très bien ça. Ouais, c'était là. Ben, dans les salles du théâtre hein, à l'époque. Ouais. Ah ben, moi je connais bien, enfin celui qui a fait mon éducation, si on peut dire, cinéphilique, c'est un gars que vous connaissez peut-être de nom qui s'appelle Bernard. Qui vient de fêter ce qu'il a fêté il n'y a pas longtemps, ses 80 ans.
On ne peut que le connaître si on aime un peu le cinéma
Voilà,
à
voilà.
Orléans, oui.
Et donc, qui dirige la PAC. Et donc, quand je suis arrivé à Orléans, bon, bah, j'allais beaucoup aux séances de la PAC aussi. Et donc, Bernard aussi, il organisait des trucs des week-ends. Donc, j'étais allé plusieurs fois, comme ça, j'ai vu des trucs qu'on voit. Enfin, il se trouve que j'ai habité pendant un an à Paris, quand je cherchais du boulot, en fait, hein, entre 69 et 70. Et donc, là, j'allais à la cinémathèque. Là, je passais mes week-ends à la cinémathèque, quoi.
Et
Des
alors?
fois, je voyais deux, trois films dans la journée, même. Ouais, ça, j'en ai vu pas mal à la cinémathèque. À l'époque, c'était à Chaillot.
Oui, tout à fait.
Ouais.
Et vous avez un film préféré ou un cinéaste préféré?
J'aime beaucoup Renoir. Enfin, bon, c'est des classiques, hein. C'est pas extraordinaire, hein, ce que je vais vous dire. Ouais, j'aime beaucoup Jean Renoir. La Grande Illusion, c'était. Alors, j'ai vu récemment, parce que j'avais jamais réussi à le voir, j'ai vu La Règle du jeu il n'y a pas longtemps, en DVD. Parce que je prends beaucoup de DVD aussi dans les médiathèques, là, celle de
Ouais.
La Source, celle d'Orléans. Ouais, j'aime bien Woody Allen, j'aime bien. Bah, j'aime bien tous les grands classiques, quoi. J'essaye de voir. J'aime beaucoup tous les films comiques. Alors, j'ai eu une époque Marx Brothers. Enfin, bon, j'aime toujours, hein. Mais bon, il n'y a plus le plaisir de la nouveauté, quoi. Parce que j'ai découvert ça quand j'étais étudiant à Lyon, à l'INSA. J'avais vu mon premier film, c'est pas leur premier film, mais le premier que j'ai vu, moi, qui s'appelle Go West.
Ouais.
Bon, ils en ont fait 13. Et donc, ben, j'ai vu les 13. J'ai vu le 13e avec ma femme. Il passait ça à Paris, dans les fesses, dans les. Bon, on connaissait sûrement à Paris le quartier latin, là, le Champollion, tout ça. Là.
Et donc, vous dites le théâtre aussi, la musique. Oui, la
Ouais,
musique.
musique. Alors la musique, ben, j'ai toujours aimé la musique, mais j'ai jamais. Ben, en fait, bon, mes parents n'étaient pas une famille de musiciens, donc j'ai jamais fait de. En fait, j'ai eu un prof très très bien quand j'étais. Au collège en Algérie, à Oran. Et donc, en fait, j'ai eu ce prof pendant 4 ans. Parce que c'était un gars qui était. Il avait une allure un peu de gorille, enfin de gorille, genre garde du corps, là, vous voyez. Et il avait. Bon, il n'était pas très beau de visage. Et il était prof d'éducation physique et prof de musique en même temps. Et c'était un gars qui était d'une sensibilité extraordinaire. Et ben, en fait, c'est lui qui m'a un peu initié à la musique. Alors, il nous faisait chanter beaucoup et il nous apprenait le solfège, enfin bon, les bases, quoi, de la musique. Et en fait, après, ben, quand je suis arrivé ici à La Source, je sais pas si vous connaissez Monsieur, Madame. Non, ça vous dit rien?
Non.
Non. Bon, c'est des gens qui étaient profs et puis qui, dans les maisons de jeunes, les choses comme ça, ils donnaient des cours. Donc, j'ai suivi des cours, elle s'en souvenait, parce que je l'ai revue il n'y a pas longtemps. Elle a eu mes enfants aussi en classe parce qu'elle a été prof dans les collèges. Donc j'avais pris des cours avec elle dans le solfège, hein, parce que ça me plaisait. Et en fait, c'est par un de mes anciens directeurs, enfin qui est devenu après directeur dans le labo dont je vous ai parlé là. Alors lui chantait avec sa femme dans une chorale et donc j'étais allé les voir. J'étais allé voir un spectacle et lui m'a dit, bah écoute, si tu as envie de chanter, il faut venir. Bon, bah, j'y suis allé comme ça. Donc ça fait 20 ans que je chante maintenant.
Et c'est
Ben, en
un...
fait, c'est par un choriste que j'ai eu vent
Oui,
de.
oui, 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 oui.
Ben, vous connaissez, donc sûrement.
On a plus...
Enfin, un de vos étudiants, je
Voilà,
pense.
tout à fait, tout à fait.
Voilà.
Qui gentiment nous permet ces rencontres
Voilà,
passionnantes.
c'est Siaou. Qui est très très sympathique, hein, très gentil.
Oui. Mais donc la chorale, ça
Alors, c'est
change
pas
beaucoup.
celle-là, c'est la chorale de l'université. Là, j'y suis depuis 10 ans.
Oui.
Mais au début, j'ai chanté à la chorale de la Source,
D'accord.
qui est une autre chorale, donc qui était dirigée par un gars très très bien. Je sais pas si vous connaissez de nom, peut-être. Anthony.
Non.
Non. Bon, malheureusement, il est décédé il y a 2-3 ans. Et c'est un jeune chef, donc catalan d'origine.
Oui.
Et il est resté que 2 ans à cette chorale. Et moi, je l'ai eu la 2e année. Donc, ça a été mon premier chef de chœur. C'était très, très intéressant. Et en fait, cette année-là, il a fait un échange avec une chorale de son pays, enfin de sa région, de Barcelone, de la région de Barcelone. Et en fait, donc ces gens-là sont venus au mois de novembre, l'année où j'ai commencé. Et nous, on y est allé au mois de mai. Et donc, on a fait plusieurs concerts. On a fait un concert notamment à Montserrat, l'abbaye de Montserrat, qui est. Enfin, c'est assez prestigieux et il n'y a pas beaucoup de gens qui ont chanté là-dedans, paraît-il. Enfin, il nous a dit ça, pour lui, c'était un grand honneur parce qu'il avait été étudiant là. Et ensuite, on a eu quelqu'un d'autre, donc un autre chef. Et puis, bon, le chef, enfin, c'était un caractériel, il est parti finalement, il nous a plaqués. Et donc, la chorale est tombée à l'eau. Et en fait, en rencontrant dans la rue par hasard mon ancien chef, la Tony. Il était au conservatoire, au chœur symphonique du conservatoire qu'il dirigeait. Et bon, bah, je lui ai demandé s'il connaissait une chorale. Il m'a dit, mais viens à ma chorale, enfin au chœur symphonique, il n'y a pas de problème. Mais je lui ai dit, mais c'est le conservatoire, moi je ne sais même pas, je sais toujours pas à déchiffrer la musique. Hein. Mais j'ai une bonne oreille, donc je sais reproduire. Et donc il m'a dit, mais c'est rien, on va te faire passer une audition, mais tu fais ce que tu peux. Et puis voilà, bah, j'ai pas eu de problème, ils m'ont pris. Donc je suis resté avec Tony, donc qui était très très sympa. Et après, alors lui, il a fini sa carrière. En fait, il a été à la maîtrise de Radio France, qu'il a dirigée jusqu'à sa mort. Et bon, après, il y a eu un autre chef, et puis là, bon, je m'entendais pas bien avec lui. Enfin, je pense que ça n'allait pas. Et là, voilà, j'ai atterri au cœur de l'université, et j'ai pas arrêté parce que là, c'était très 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 bien. Voilà, donc là on a eu plusieurs chefs aussi, et maintenant il y a une jeune femme qui vient de Tours.
Et alors justement pour la musique ou pour les autres activités culturelles, vous trouvez qu'Orléans c'est une ville qui est bien pourvue de
Par rapport à ce que c'était il y a. Enfin, quand je suis arrivé, oui, ça a quand même beaucoup, beaucoup changé. Hein. Ouais. Oui, il y a une offre maintenant, même au point de vue théâtre, tout ça. En
Oui.
plus, je suis dans un. Je ne sais pas si vous connaissez la Tao de nous,
Oui,
ça vous dit quelque
oui,
chose.
oui.
Et là, je suis dans le bureau de la Tao
D'accord.
depuis une bonne trentaine d'années aussi. Donc maintenant, on est quasiment que des retraités. On a réussi à recruter quelqu'un qui est beaucoup plus jeune là maintenant. Mais sinon, il y a beaucoup de retraités.
Ouais, vous êtes au cœur de la vie culturelle.
Ouais. Ben en fait, nos 40 ans. Alors en fait, la Tao a commencé juste l'année où je suis arrivé, mais bon, ben, je ne l'ai pas connue à ce moment-là, j'ai connu quelques années après. Donc au début, ben, j'y suis allé comme ça par goût, puis je trouvais ça intéressant, etc. Puis après, bon, ben, ben, c'est une amie donc, qui est là-bas, qui faisait partie du bureau, qui m'a dit, ben, écoute, si tu souhaites venir. Et donc voilà, comme ça, je suis rentré dans le bureau, et bon, ben, c'est vrai que c'est intéressant, on choisit les spectacles, on en discute avant, après, donc c'est bien. Hein. Je ne sais pas si vous êtes allé vous-même, non?
Oui.
Vous avez un abonnement?
Vous
Non?
allez me prendre un abonnement. J'ai eu longtemps un abonnement, pas longtemps, oui.
Ah oui.
Oui, c'est vrai, oui. Ah oui, c'était
Mais
quand
là,
j'étais
cette
jeune
saison,
étudiant, ouais,
elle est bien,
c'était.
hein, cette
Ah non, mais.
saison-là. Je ne sais pas, vous avez rien vu, peut-être, mais.
Non, bah, non, non. Malheureusement, depuis que ces projets de recherche, par exemple, me
Ouais,
prennent
ça
tout
prend du
mon
temps,
temps,
ouais,
on
c'est
est.
sûr, c'est
C'est une vie professionnelle un peu dure,
sûr.
mais toute ma vie d'étudiante, par exemple à Orléans, la Tao, c'était très, très important pour
Ouais,
moi. Oui. Et pour beaucoup d'Orléanais, c'est quelque chose
ouais. Ouais,
qui
ben heureusement,
anime.
ça continue
Oui.
à marcher, mais bon, c'est vrai que c'est difficile de se faire une place parce comme il y a beaucoup d'autres structures maintenant
Oui.
qui proposent du théâtre, bon, évidemment, il y a la concurrence, hein, c'est normal.
Oui. Quand même. Et les grandes manifestations orléanaises, Vous y participez, par exemple, je pense au festival de jazz ou
Ben, le festival de jazz, ouais, on n'est pas allé énormément. On y va ponctuellement, on essaye d'y aller au moins une ou deux fois. Mais c'est vrai, non. Je me souviens quand notre fils était tout petit, il y avait Manu Dibango, et alors c'était
ouais.
son idole, Manu Dibango. Donc du coup, on a pris des places, on est allé avec lui, on l'avait emmené, il était tout content. Parce que lui, il fait du saxo, là, mon
Ah oui.
fils, ouais.
Et les fêtes de Jeanne d'Arc, par exemple, ça vous
Oui,
plaît?
on y allait, ben maintenant, ça arrive, oui, qu'on aille. On va assister au défilé. Enfin, on a des amis qui habitent rue Lillier, parce qu'en fait, c'est assez rigolo, parce qu'il se trouve que ma femme a une collègue qui vient de prendre sa retraite, qui est puéricultrice comme elle. Et en fait, on a découvert par hasard quand ils nous ont invités chez eux une fois. Parce que bon, elle avait sympathisé avec elle, donc elle m'avait présenté son mari. Et une fois, ils nous ont invités pour un réveillon. Et en fait, en allant, enfin après, j'ai dit à ma femme, c'est là que j'ai loué ma chambre quand j'étais étudiant, enfin pas étudiant, quand j'étais au CNRS. Ah, elle m'a dit, bah, t'es sûr? Bah, je lui ai dit, bah, oui, c'est là.
Ah oui,
C'était marrant. Il y
ah
avait
oui.
une dame à la mairie, mais bon, enfin peut-être que vous la connaissez de nom, Mademoiselle, elle s'appelait. Alors elle aidait les gens, les nouveaux arrivants, à s'intégrer, etc. Et donc je lui avais dit, moi j'étais à l'hôtel, et je lui ai dit, bon, j'aimerais bien trouver une chambre sur Orléans, parce que bon, à la source, c'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose déjà, enfin à l'époque. Et c'est par elle que j'avais trouvé ça. Et donc, bah à l'époque, en fait, je ne l'avais pas connu à l'époque, il s'appelle Jean-Marie, parce que lui-même était étudiant ailleurs. Et donc, en fait, il venait le week-end, mais bon, le week-end, moi, souvent, j'avais de la famille à Paris, j'allais sur Paris. Donc, lui, je ne le connaissais pas. Sa femme, comme elle vient du Sud-Ouest, je ne la connaissais pas, évidemment. Mais je me souvenais très bien de l'appartement, enfin, c'est un genre d'hôtel particulier, quoi. C'est une petite maison. Et je louais une chambre au deuxième étage, là. Et je me souvenais très bien. Je me souviens très bien de ses parents, enfin, qui sont décédés, évidemment, depuis. Hein. Voilà, c'est marrant, hein, le
Ah
monde est
oui, tout à
petit.
fait. Et alors, vous trouvez, vous, qu'il y a une, vous qui avez justement beaucoup déménagé, qu'il y a une identité orléanaise, qu'il y a, voilà, par exemple, une façon de parler propre aux Orléanais, une culture orléanaise ou.
Oui. Mais en fait, c'est vrai que j'ai pas connu énormément des gens, des Orléanais de souche. Ben, c'est vrai, beaucoup dans les gens que je côtoie, Latao par exemple, c'est des gens qui viennent de tous les coins. Et il n'y a pas énormément de. Si, Bernard, je crois qu'il est Orléanais.
Ah, j'avoue, je ne sais
Il
pas.
me semble qu'il est Orléanais de souche. Même au CNRS aussi, il y a des gens qui viennent de tous les coins.
Et non, mais est-ce qu'on
Donc,
les Orléanais ont une réputation d'être froid, justement, d'être peu accueillant. C'est quelque
ouais,
chose que
c'est
vous
ce
avez.
qui se dit,
Oui.
ouais. Bon. Ouais, c'est vrai, peut-être. Il y a un peu de vrai, oui. Bon, mais enfin, bon, maintenant, c'est vrai qu'on.
Et est-ce qu'il y a
Il y a
des.
longtemps qu'on y est, hein, donc on
Oui,
s'y est fait. Hein.
oui, oui.
Mais ma femme, c'est vrai qu'elle a du mal à se faire Orléans, ouais.
Ah.
Enfin bon.
Et vous avez l'impression qu'il y a des mots que vous entendiez qu'à Orléans ou un lexique comme ça qui serait orléanais, par exemple, ou pas du tout.
ben c'est plus quand je suis arrivé d'Algérie. Mais alors je ne sais pas si c'est spécifique à Orléans, mais il me semble que c'est. Ouais, peut-être que c'est plus orléanais, je sais pas. C'est pour dire à bientôt ou à cet après-midi, on dit à stantôt. Alors je sais pas si c'est spécifiquement orléanais,
C'est vrai, oui,
mais je l'ai pas entendu trop ailleurs.
Ça, oui,
Comme
ça.
j'ai habité sur Nice, j'ai habité Lyon, j'ai habité un peu Paris, mais enfin pas longtemps. C'est vrai que je crois pas l'avoir entendu ailleurs. Mais ça, je suis assez. Parce que moi, je m'intéresse beaucoup à la langue. Enfin, à la linguistique, n'exagérons pas, parce que je sais pas. Mais j'aime bien, je lis beaucoup d'ouvrages là-dessus. Comment elle s'appelle Henriette Walter, ou. Le grand linguiste, là, qui est. Comment il s'appelle, là?
Agege, non,
Voilà, Claude Agege.
Agege. Ah oui. Et alors, dans le quartier ici, vous entendez des langues autres que le français parlées par les gens dans les commerces, dans la rue, etc., ou que du français?
Bah en fait, on a une dame qui fait le ménage qui est portugaise, mais bon, c'est vrai qu'avec elle, on parle pas. Moi, je parle pas portugais, hein. En fait, à Oran, les gens parlaient beaucoup l'espagnol, mais moi, malheureusement, j'ai. En fait, il se trouve que par hasard, dans le collège où j'étais, il n'y avait pas d'espagnol. Il y avait de l'anglais, donc j'ai fait anglais première langue, et il y avait arabe. Donc en fait, c'était arabe ou arabe. Donc j'avais pas le choix. Donc j'ai fait 2 ans d'arabe,
D'accord.
en quatrième et en troisième. Et après, quand je suis venu ici, en fait, au lycée Benjamin Franklin, il m'avait conseillé de faire ce qu'ils appelaient à l'époque Modern Prime. C'est-à-dire il y avait une seule langue, mais on faisait plus de sciences naturelles. Et donc j'ai pas fait d'autres langues. J'ai fait que l'anglais. Alors j'ai essayé de me mettre quand mes enfants ont fait. J'ai essayé parce que j'ai pas fait de latin non plus. Bon, j'ai essayé de me mettre un peu au latin, à l'espagnol. Mais bon, c'est vrai que je baragouine. Quand je vais dans un pays, j'aime bien baragouiner la langue du pays. Donc en italien, j'arrive à avoir un bon accent, quoi, dans toutes les langues. Mais bon, on peut pas dire que je les parle, quoi. Je parle le français, je crois, assez bien. Et l'anglais, pas mal. Voilà, mais sinon. Non, je crois pas. Le latin, j'ai fait des progrès parce que justement, avec le chant choral, il y a beaucoup de chants en latin. Et puis justement, avec la chorale, on m'a chanté des trucs de tous les pays, donc c'est comme ça que j'arrive à bien prendre l'accent, quoi.
Et alors, toujours sur cette identité orléanaise, il y a une gastronomie locale, à votre avis, il y a des plats orléanais.
Oui, il y a le cotignac.
Le cotignac, ah oui, le cotignac, oui.
Et puis, bah, je sais pas, il y a le gibier, enfin la semaine qui est pas loin. Ouais, je sais pas, les spécialités.
Vous faites, vous, un peu de cuisine, non? Ou... Vous-même.
Alors, c'est récent.
C'est récent. C'est lié à la retraite.
C'est lié un peu à la retraite, oui, parce que j'ai plus de temps. Mais en fait, bon, quand j'étais célibataire, j'avais quelques recettes que je faisais, etc. Et bon, alors après, quand j'ai connu ma femme, là, il n'y a pas photo. Elle, c'est quasiment une professionnelle. Enfin, elle n'est
Ah
pas
oui.
professionnelle de la cuisine, mais elle adore, elle fait très très bien la cuisine. Mais particulièrement bien. Je crois que je suis vraiment bien tombé. C'est très rare qu'elle fasse quelque chose. Enfin, parce que je suis assez difficile en plus. Il y a des trucs que j'aime pas, les épinards, des trucs comme ça. Mais bon, quand elle cuisine quelque chose que j'aime, c'est exceptionnel que ce soit pas bon. C'est arrivé peut-être une fois ou deux, bon, qu'elle fasse brûler quelque chose, des choses comme ça. Mais sinon, et même bon, tous les amis qui viennent, les gens qui ont l'occasion de goûter sa cuisine, ils sont tous admiratifs, hein. Et donc, bon, bah. Voyant que j'étais surpassé, j'avais plus ou moins laissé tomber. Donc je l'aidais pour des trucs. Bon, maintenant, disons que on s'est réparti. Enfin, maintenant, c'est moi qui fais toutes les courses. Et j'essaye de faire la cuisine. Mais bon, elle fait toujours beaucoup mieux que moi la cuisine. Mais j'essaye quand même de faire quelques plats.
Ah oui.
Mais est-ce que des plats orléanais. Bah, y a rien qui me vient comme ça, là, je sais pas, je vois
Mais
pas.
ça me permet de poser une question que je garde toujours
Ouais.
pour la fin, parce que c'est une question, vous allez voir, un peu particulière. Il se trouve que le portrait sonore de la ville qu'on fait actuellement
Ouais.
a déjà été fait il y a 40 ans. En fait,
Ouais, j'ai lu ça, ouais.
vous auriez pu y participer.
Ben
Ah,
oui,
tout juste, non,
j'avais
parce que
pas dû le
c'était
savoir.
en 69, vous n'étiez pas encore né,
Ah ouais, non, j'étais pas
mais
né.
voilà. Et c'est des Anglais qui l'avaient fait à l'époque.
Ouais.
Et ils ont posé, donc ils ont fait 150 entretiens comme ça, et à chaque fois ils ont posé une question qui nous a paru bizarre au début, qui était comment est-ce que vous faites une omelette? Et ils ont donc 150 recettes d'omelette à l'époque. Alors on a
Ouais.
repris cette question maintenant pour essayer de continuer
D'accord.
ce grand document sur les recettes de l'omelette. Donc ça me permet de vous demander, est-ce que vous faites des fois une
Ah
omelette
oui, ça
maintenant?
oui, ça je sais faire l'omelette.
Alors est-ce que vous pouvez me raconter comment vous y prenez pour faire une omelette? Quelle est votre propre recette?
Alors, c'est assez rare qu'on fasse une omelette simple. Ce qu'on fait généralement, souvent avec des restes, quand il y a des restes de pommes de terre, par exemple, ou de ratatouille, ça peut aussi arriver avec la ratatouille, parce que ça, j'aime beaucoup la ratatouille. Quand il y a un reste de pommes de terre, bon, je les épluche si elles ne sont pas épluchées, cuites, hein, je veux dire. Et ensuite, je les coupe en tranches. Je les fais revenir avec un peu d'ail, d'oignon, enfin d'ail, oui, dans une poêle. Je les retourne, etc. Donc, à part dans un bol, je prépare une omelette, je prépare au moins 4 ou 5 œufs, pour deux généralement maintenant. Je sale, je poivre. S'il n'y a pas de pommes de terre, je mets du fromage. Des fois, je mets quand même du fromage un peu, parce que j'aime beaucoup le fromage aussi. Et puis, je bats l'omelette bien à fond. On a un système que mon fils nous a ramené de Suède. Là, il a fait une année en Suède. Bon, on bat bien ça. Et ensuite, ben, quand les pommes de terre sont bien dorées, chaudes, je rajoute l'omelette. Donc je laisse cuire un petit moment d'un côté, puis ensuite j'essaye de la rouler progressivement dans la poêle. Alors j'aime pas trop qu'elle soit baveuse, mais bon, il faut pas non plus qu'elle soit trop trop cuite, que ce soit très légèrement baveux. Et voilà, on la sert, on la mange chaude avec une salade.
D'accord. Ben merci bien. Pour moi, c'est la dernière question de ma trame, mais peut-être que vous, il y a un thème que vous auriez aimé aborder ou d'autres choses à ajouter. N'hésitez pas. Si vous trouvez qu'il y a un thème sur lequel vous auriez aimé raconter quelque chose.
Ben en fait, non, je vois pas trop.